Bonjour, excusez ma voix, je suis un peu enrhumé, quoi. La Sainte Cène, ça nous rappelle ce que notre salut a coûté à notre Sauveur. Et ce matin, je voudrais parler de l'aspect coûteux de notre vie chrétienne. Parce que vivre en disciple de Christ, ça a un coût. Alors, pour cela, on va lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, les versets 57 à 62. Luc 9, 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur. » Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alors dans ce court texte, Jésus rencontre trois personnes. Trois personnes qui sont motivées pour le suivre. Mais trois personnes qui ont un problème. Ils veulent suivre Jésus, mais il y a quelque chose qu'ils n'ont pas bien compris. Ils n'ont pas compris que suivre Jésus, ça engendre un coût. Et c'est le thème de ces versets. Or, le coût, c'est un concept qui vous est à tous familier, je pense. Quand on a un projet personnel ou professionnel, la première chose à faire, c'est d'établir un budget. Si le budget dépasse nos possibilités, alors le projet il peut aller à la poubelle. C'est vrai dans tous les domaines, même si la dépense n'est pas financière. Imaginons que je veuille gravir le Mont Blanc. Qu'est-ce que je dois faire d'abord? D'abord, il faut faire des préparatifs et puis il faut s'entraîner. Se poser la question, est-ce que je vais arriver au bout? Est-ce que je vais pouvoir arriver au sommet et puis rentrer chez moi? Ou est-ce que je vais abandonner? C'est un peu la même chose dans la vie chrétienne. Et c'est ce que Jésus voulait enseigner, toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, donc un peu plus loin, à partir du verset 28. Jésus disait, « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense ?» et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas pu achever. » Ou « Quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. » S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Et cela, Jésus l'applique vraiment à notre vie de disciple, puisque juste le verset suivant, il précise « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » La vie chrétienne n'est pas forcément un chemin bordé de roses. Bien sûr, il y a des joies. La principale, c'est de se savoir pardonner et que notre nom soit inscrit dans le livre là-haut, le livre de vie. Mais il y a aussi des moments où la vie chrétienne va nous coûter. Comme on va le voir, il y aura des moments où, franchement, on peut se demander s'il n'aurait pas été préférable de ne pas être chrétien. Je ne sais pas où vous en êtes personnellement tous avec Jésus, mais cette notion de coût est importante pour tous. Alors si vous êtes chrétien, êtes-vous conscient des défis coûteux qui découleront justement du fait de votre allégeance avec le Christ? Alors ce passage pourra peut-être vous aider à ne pas abandonner, mais à arriver au bout, jusqu'au moment où vous verrez le Christ dans toute sa splendeur. Si vous n'êtes pas encore chrétien, alors écoutez attentivement quand même les aspects coûteux de la vie chrétienne. Et puis étant bien préparé, connaissant tout ce que vous connaissez déjà sur le Christ, les bénédictions éternelles, mais aussi les coûts, faites le choix. Suivez Jésus en étant bien préparé pour le suivre jusqu'au bout. Alors, j'imagine tout de suite que certains pourraient se dire, mais attends, moi le Seigneur, pour moi, c'est mon refuge, ma force. Je veux ne pas entendre parler de l'aspect coûteux de le suivre. Je veux le suivre, il est bon, il me donne la vie éternelle, je connais sa paix. Et puis en plus, il ne faut pas décourager les gens quand même. Mais si Jésus nous a laissé ce texte, c'est pas pour rien. Il veut nous mettre en garde afin d'avoir, que nous ayons, nous, de bonnes attentes pour ne pas lâcher en route. Et tout ce qu'on a dit de Jésus, c'est vrai. Il est notre sauveur, il est notre refuge, notre force. Il est toutes ces choses, il est bien plus même. Et en fait, si on venait de relire les 9 premiers chapitres de Luc, tout ce qui précède donc, c'est la conclusion que nous aurions tirée. Jésus est remarquable. On le voit dans ces chapitres, il est le roi promis par l'Ancien Testament, celui qui vient réparer ce monde déchu, abîmé par le péché. Il est venu pour nous pardonner, il est le seul à pouvoir le faire. Son enseignement est extraordinaire. Il est plus puissant que le mal et il fait des choses merveilleuses. Qui ne voudrait pas le suivre? Mais écoutons quand même l'avertissement de ce texte et voyons comment ça pourrait nous aider à le suivre fidèlement. Jésus veut qu'on soit conscient des batailles à livrer, de l'aspect coûteux de le suivre. Avec Jésus, dans le contrat, il n'y a pas des petits trucs en bas, vous savez, c'est en écrivant tout petit qu'on n'arrive pas à lire. Pas de mauvaise surprise. Il nous prépare pour que nous ayons les bonnes attentes. Or là, on a vu 3 personnes, 3 aspects du coup différents. 3 points pour nous aider à suivre pleinement Jésus, quelles que soient les circonstances. Alors le premier point, Jésus doit précéder mon confort personnel. Ce jeune homme qui vient vers Jésus et qui a l'air d'avoir tout compris, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » C'est chouette, non? Magnifique. C'est comme s'il avait déjà en tête tout ce qu'on a pu lire dans les chapitres précédents de Luc. Il sait très bien que Jésus est merveilleux. Le guérisseur de notre plus grand problème, le guérisseur du péché. Il vient vers Jésus, il l'appelle Seigneur, il veut le suivre. Mais Jésus voit au-delà des paroles du jeune homme, il voit dans son cœur. Il met son doigt sur la chose qui est la pierre d'achoppement pour lui, son confort. Oui, même les renards ont des tanières, même les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour reposer sa tête. Alors on parle souvent des droits de l'homme, le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit à la liberté, le droit au logement. Ici c'est choquant. Jésus dit quelque part que même les animaux ont plus de confort que lui. Alors Jésus dit à ce jeune homme, oui, tu veux me suivre, mais es-tu conscient du type de vie que cela va impliquer? Pour Jésus, pas de confort personnel, pas de chez lui. Et si on regarde un peu la vie de Jésus, c'est vrai. Il est né dans une étable. Il n'y avait pas de place pour lui à l'auberge. Il a été rejeté par ceux de son village, traité de satanique par les pharisiens, par les religieux, trahi par l'un de ses proches, abaissé jusqu'à être jugé coupable alors qu'il était parfaitement innocent, abandonné même de son père sur la croix. Et tout cela pour me sauver, pour te sauver du jugement que méritent tes péchés. Donc Jésus n'exagère pas quand il dit que les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids et que lui, il a rien. Alors oui, tu veux me suivre, il dit au jeune homme, mais es-tu conscient de ce que ça implique pour ta vie? Puis je pense que si on y réfléchit encore un peu plus, Jésus utilise à propos de lui un terme, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, ça vient d'un texte de l'Ancien Testament, du livre de Daniel. Je vais vous lire, c'est Daniel 7, au verset 13. « Je regardais dans ses visions de la nuit et je vis comme le Fils de l'homme qui venait sur les nuées des cieux. Et il vint jusqu'à l'Ancien des jours. Et on le fit approcher de lui. Et on lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, nations et langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera point détruit. » Alors vous comprenez que quand Jésus s'applique ce titre à lui-même, c'est un titre le plus élevé qu'on puisse imaginer. Le Fils de l'homme dont parle le livre de Daniel, c'est quelqu'un à qui Dieu a donné tout pouvoir, toute domination, tout règne pour l'éternité. Alors, au lieu de Fils de l'homme, on pourrait lire Maître de l'univers. Et si on remet ça dans le texte, les renards ont des tanières, les oiseaux des nids, mais le Maître de l'univers n'a pas un endroit pour reposer sa tête. C'est quoi la leçon pour nous? Est-ce à dire que ceux qui possèdent un bien immobilier sont de moins bons chrétiens? Je pense pas. Mais Jésus doit venir avant notre désir de confort. Si je suis chrétien, alors je dois suivre Jésus au-delà de mon désir d'être bien, d'être confortable. Alors c'est peut-être qu'un départ de réflexion. Je vais vous laisser l'approfondir pour vous-même et par vous-même, parce que l'application sera certainement différente pour chacun. Mais moi, j'en ai tiré deux leçons. La leçon numéro 1, ne vis pas pour le confort. Souvent, on présente dans notre société le confort, la vie confortable, comme la chose la plus désirable au monde, pour laquelle nous devons vivre, pour laquelle il nous faut même faire des sacrifices. Travailler de plus en plus dur, même s'il faut sacrifier ses relations, comme ça on pourra être promu. Gagner plus d'argent, comme ça tu pourras avoir un meilleur niveau de vie, plus de pouvoir d'achat. Ça vous rappelle une revendication, ça, de notre temps? Plus de pouvoir d'achat? Quand nous mettons quelque chose à la place de Dieu, que ce soit l'argent ou le confort ou autre chose, Dieu appelle ça l'idolâtrie. On prend une bonne chose et on la traite comme si elle était un Dieu. Ne vivons pas pour le confort. Alors la prochaine fois que tu te bats pour une vie plus confortable, sans honorer Dieu en premier, souviens-toi que le roi de l'univers n'avait pas de chez lui. Alors comment savoir si je porte mon adoration à une vie de confort. Alors, je vais vous donner une question à répondre pour le diagnostic. Qu'est-ce qui se passe quand tu perds l'une de tes possessions précieuses ou que ta vie confortable est compromise? Oui, Seigneur, je te fais confiance, je peux continuer à vivre même sans cette chose pendant un temps. Je compte sur toi avec ou sans cette voiture, sans ce job, sans cette maison. Ou bien tu te mets en colère contre Dieu. Pourquoi m'as-tu repris cela? Ma voiture, ma santé, j'y ai droit, c'est à moi. Jésus doit passer avant mon confort. Ça vaut autant pour ceux qui ont beaucoup que ceux qui ont moins. Le confort, c'est pas mauvais en soi, mais ça n'est pas à être notre Dieu. Ne vis pas pour le confort. Puis la deuxième leçon. Suis Jésus, même si ça va à l'encontre de ton confort. Alors, j'ai pensé à l'exemple classique de la personne qui vit au Moyen-Orient et qui se tourne vers le Christ. Vous lisez tous peut-être Portes ouvertes. Il n'y a pas qu'au Moyen-Orient d'ailleurs. Celui qui fait ça, il sait qu'il souffrira potentiellement du rejet de sa propre famille, et ça c'est dans le meilleur des cas, parce qu'il est chrétien. Pour lui, Jésus lui dit, « Suis-moi, même si ça va à l'encontre de ton confort, parce que ça vaut le coup. La vie éternelle est réelle, tu peux me faire confiance. » Quel réconfort peut-il connaître que Jésus lui-même a vécu cette vie coûteuse? Il nous dit dans Jean 15, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. » Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Alors ça, c'est pour lui, celui qui vit là-bas, mais pour nous. Alors je pense aussi à l'exemple classique, la personne qui est célibataire et qui veut à tout prix se marier. C'est dur d'être célibataire. Mais suivre Jésus et lui obéir signifiera qu'il dira non pour se marier avec un non-chrétien qui ne l'aidera pas à suivre le Christ, qui l'en détournera peut-être. Dans ce cas-là, ce sera difficile de suivre Jésus, coûteux. Ça va à l'encontre de tes désirs. Mais suis Jésus, même si à tes yeux c'est coûteux. Ce sera dur, mais Jésus sait ce qui est le meilleur pour toi. Et puis, si tu es célibataire, ne pense pas que le mariage résout tout. Alors, un deuxième point, deuxième aspect coûteux dont nous devons être prévenus. Jésus doit précéder toutes tes autres priorités. Alors, ce qu'il dit au deuxième, j'ai trouvé que c'était un peu difficile à comprendre. Il lui dit, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, toi, va annoncer le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Jésus nous enseigne par là de négliger notre famille? Il a l'air de dire que ça n'a pas de grande importance, la famille. Et je pense que pour ça, le reste de l'Écriture peut nous aider à voir beaucoup plus clair. En effet, dans toute la Bible, Dieu voit le soin qu'on apporte à sa famille comme notre plus haute priorité. Que montrer un manque d'attention pour notre famille relève de la désobéissance à l'encontre de Dieu. Par exemple, vous vous souvenez de ces pharisiens qui, pour impressionner, je pense, veulent donner l'argent qu'ils prévoyaient de donner à leurs parents, ils veulent le donner au temple. Et Jésus expose leur hypocrisie et parle de leur désobéissance à Dieu, justement, de ne pas pourvoir aux besoins physiques de leur famille, de leurs parents. Alors ça peut te mettre au défi. Bibliquement, tu dois pourvoir aux besoins de tes parents. C'est primordial. Alors qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire là? Ça m'étonnerait que Jésus soit en train de dire le contraire que du reste de l'Écriture. Il n'est pas en train de nous dire que maintenant, on n'est pas obligé de pourvoir aux besoins de ses parents. Mais je pense qu'il veut nous dire que le suivre, ça doit être plus important que la plus élevée de nos priorités dans la vie. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les grandes choses que je considère comme prioritaires? Mon travail? Jésus doit venir avant mon travail. Si pour gagner plus, mon travail ne me permet pas de rencontrer mes frères et mes sœurs, peut-être, dans la mesure où c'est possible, il serait temps d'en changer. Mes études, ma carrière, Jésus doit venir avant mes projets pour ma vie. L'opinion de mes parents, de mes amis, vous savez ce qu'on a sur Facebook par exemple, Jésus doit venir avant l'opinion de mes amis. Jésus est le roi, il est le fils de l'homme, le roi de l'univers, il est bon et on fait bien de le suivre. Il doit être prioritaire sur toutes les autres priorités de notre vie. Alors j'imagine que certains peuvent penser, je veux bien suivre Jésus, mais je veux le reste aussi. Jésus est une vie confortable. Jésus sera alors parfois en seconde position. Est-ce acceptable? Pour y répondre, on a besoin de la troisième personne qui vient vers Jésus. Je te suivrai, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et Jésus lui répond, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est le troisième point. Suis Jésus. Ne regarde pas derrière toi. Ici, le défaut, c'est un regard constant en arrière. C'est de constamment basculer dans le regret. Est-ce que j'ai bien fait de donner ma vie au Seigneur? La réponse de Jésus, c'est « Suis-moi, ne regarde pas en arrière. » Il faut savoir quand même que la vie de celui qui n'est pas chrétien peut être heureuse, très heureuse même. Il ne faut pas être surpris de cela, c'est la nature du péché. La vie de péché, c'est vivre dans le monde que Dieu a créé, comme si Dieu n'était pas là. Ça peut très bien marcher, à court terme en tout cas. On va lui relire quelques versets du psaume 73, juste le début et la fin. Le psaume 73, psaume d'Asaph. « Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est chargé d'embonpoint. » Bon, on veut maigrir en ce moment. Hein. « Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. » Et puis on continue et on va à la fin. « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. » Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Pense aussi un instant au fils prodigue. Lui qui a coupé les ponts avec son père, brisé la relation d'amour avec le père. Comment ça se passe? Super cool au début. C'est bien, il s'amuse, tout bien. Mais après quelques temps, c'est la cata. Isolé, sans amis, perdu, affamé. Il voulait même piquer la nourriture au cochon. Euh, Alors vivre contre la volonté claire de Dieu, ça peut marcher pendant un certain temps. Mais Dieu nous prévient que nous aurons tous des comptes à rendre. Tout le monde a un rendez-vous immanquable avec Dieu. Alors que vais-je faire pour suivre Jésus ? Certainement renoncer à certains désirs qui peuvent sembler légitimes, en tout cas dans notre société, et dont je sais bien que Dieu désapprouve. Ne te regarde jamais en arrière, ne te pose même pas la question « Est-ce que je fais bien de suivre les commandements de Dieu ?» ou « Est-ce que, en fait, Dieu, c'est seulement un rabat-joie ?» Le péché n'est jamais désirable. Il n'a qu'une seule destinée, le jugement, la colère de Dieu et la mort. Alors dans la Bible, on a de bons modèles à imiter, puis on en a de mauvais à ne pas suivre. Il y a un groupe de personnes qui avaient justement tendance à regarder en arrière et à désobéir à Dieu. Vous vous souvenez, le peuple dans le désert? Je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Dieu les avait sauvés miraculeusement de l'esclavage en Égypte. Il leur promettait un avenir glorieux. Il avait pourvu à leur nourriture pour pouvoir survivre dans le désert pendant qu'ils étaient en chemin. Mais ils rouspétaient, ils regardaient en arrière. Si seulement on était en Égypte. Au moins en Égypte, on avait des concombres. Réfléchissez. Vous voulez retourner en Égypte, vous perdrez votre salut, votre relation avec Dieu, votre avenir glorieux et la protection quotidienne de Dieu. Tout ça pour des concombres? D'autant que je les aime pas, les concombres. Ça fait sourire, mais c'est un message qu'on a besoin d'entendre. Dieu nous a sauvés miraculeusement du péché, de l'esclavage. Nous pouvons être en règle avec lui. Il nous a promis un avenir glorieux. Il pourvoit à tout ce dont nous avons besoin pour cette vie ici-bas. Et on voudrait regarder en arrière. Pensez aussi à la femme de Lot. C'est peut-être difficile de ne pas regarder en arrière. On peut se dire, je sais bien que Dieu veut que je sois pur sexuellement, mais ce que je vois sur Internet, c'est pas grave. Si, c'est grave. Suis Jésus, ne regarde pas en arrière. Je sais que Dieu veut que je sois patient à la maison, même quand il ou elle fait ça, j'explose. Suis Jésus en obéissance. Ne regarde pas en arrière. Je sais que Dieu ne veut pas que je vive pour mon confort, mais je m'en fiche. Je veux continuer à remplir mon cœur d'espoir d'une vie meilleure, d'une vie de confort. Suis Jésus. Il doit venir en premier. Ne regarde pas en arrière. Alors une dernière chose quand même à dire, avant de conclure. Une chose hyper importante. Où est la grâce là-dedans? Je ne sais pas vous, mais moi je me dis, j'ai très souvent mis mon confort avant ma relation avec le Seigneur. J'ai à même entreprise mis d'autres priorités avant lui. Souvent, j'ai regardé en arrière. J'ai souvent péché par orgueil, par manque de maîtrise, par impatience, par manque d'amour pour Dieu ou pour mon prochain. Mais le contexte de ce que nous avons lu, il peut nous répondre. Parce que quelques versets plus tôt, en Luc 9, verset 51, il nous est dit « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Et c'est un tournant dans l'évangile de Luc. À partir de là, on entre dans le récit du voyage de Christ vers Jérusalem, là où l'attendait la croix, là où il meurt à notre place, nous qui étions imparfaits par notre impureté, notre colère, notre orgueil. Il meurt pour que toute la colère de Dieu qui devait nous revenir se pose sur ses épaules. Il meurt pour nous sauver de cette colère du jugement divin, de la mort. Il nous fait grâce. Alors peut-être que tu n'es pas encore chrétien, et c'est la raison, la numéro un, pour le devenir, pour suivre Jésus. La Bible explique que tu es pécheur, que tu vas faire face au jugement de Dieu, mais Jésus peut éviter cette colère et ce jugement. Il a pris tout ton péché sur lui, il t'offre de te gracier. Et pour nous qui sommes chrétiens, nous sommes couverts par la grâce de Dieu. Alors oui, nous tombons, mais Dieu nous pardonne toujours par Jésus-Christ. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors pour résumer, en tant que pécheur pardonné, Jésus nous appelle à le suivre en connaissant les défis et les aspects coûteux. Mon confort doit venir après Jésus. Mes priorités et responsabilités doivent venir après Jésus. Et je fais bien de suivre Jésus sans regarder derrière moi. Alors oui, je tomberai parfois. Mais quand je tombe, je fixe mes yeux sur lui. Il a pris tout mon péché et je continue à le suivre. Suivons Jésus jusqu'au bout, coûte que coûte, parce qu'il nous aime et il est entièrement digne de confiance. Alors pour conclure, je vais vous laisser un verset qui va peut-être vous encourager, certainement. C'est 1 Corinthiens 1, verset 8. « Il vous affermira jusqu'à la fin. » C'est pas « il vous affermira », peut-être. « Il vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen.